Dans quoi je n'investis pas et dans quoi ne pas investir? Selon moi, c'est le sujet du podcast. Tu le sais, on parle à la fois d'entrepreneuriat, d'investissement, de finance, d'immobilier dans ce podcast. Et pour moi, c'est important de te faire un sujet complet sur, à mon sens, les pièges à éviter dans l'investissement. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Dieu sait qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut faire vraiment très attention. Et c'est ce qu'on va couvrir dans ce podcast. Et je vais prendre différents critères et bien évidemment, je vais te donner des exemples. Donc reste bien, ce sera un peu croustillant. Il y aura des exemples que tu as forcément vu autour de toi, que tu as malheureusement vu sur les réseaux sociaux, sur Internet en général. Donc prends bien garde à tout ça et on commence tout de suite avec le premier critère. Donc je ne vais pas te donner forcément tous les types d'investissements à éviter, mais je vais te donner des critères qui vont te permettre toi de ton côté de faire ton analyse et bien évidemment de prendre ta décision derrière. Le but c'est pas de te dire quoi faire, c'est de te donner mon avis et mes critères de choix qui font que moi de mon côté je ne mettrai pas un centime dans ces investissements. Alors premier investissement, ah oui, alors avant même, je vais couper ce que je viens de dire, avant de commencer avec les premiers critères, je vais quand même poser un petit peu ce que j'ai fait en investissement parce que c'est vrai que si tu écoutes ce podcast depuis très longtemps, évidemment tu me connais, on est à quasiment 200 épisodes donc je pense que tu commences un petit peu à voir ce que j'ai fait en investissement, mais si tu ne me connais pas, de mon côté, eh bien j'investis en 35 biens immobiliers. À côté de ça, j'investis beaucoup d'argent, on parle en millions d'euros sur des investissements, on va dire, sur les marchés financiers, sur des supports d'investissement bancaires et autres. Donc voilà, j'ai une certaine expérience, on va dire, là-dessus, également sur les crypto-monnaies, sur des actifs un peu plus, on va dire, atypiques et des investissements, on va dire, plus plaisir. Donc j'ai pu varier, hein. Quand je dis plaisir, ça va être par exemple des investissements type dans des voitures, dans des bijoux, des montres, des métaux précieux, etc. Qui sont évidemment, et je précise pour ceux qui écoutent, stockés dans des coffres forts, c'est-à-dire pas chez moi, je précise pour ceux qui seraient tentés de venir voir. Autre chose, donc maintenant on commence avec le premier critère qui est pour moi super important quand on parle d'investissement et quand on parle de d'analyser une opportunité d'investissement. Le premier critère, il est évident, c'est de la sagesse populaire, c'est du bon sens paysan comme on dit, c'est est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Et ça c'est un point quand même qui est essentiel et tout le monde le dit, mais peu de personnes font assez attention. En tout cas, peu de personnes ont les bons éléments pour juger ce qui est vraiment trop beau pour être vrai. Alors, qu'est-ce que j'entends par trop beau pour être vrai? Pour moi, ça va être des promesses de gains irréalistes par rapport au temps investi ou par rapport à l'expertise demandée. Je m'explique. Quand on te propose, par exemple, un investissement, on va dire où tu vas pouvoir générer 12% par an, mais que ça te demande de chercher un bien immobilier, par exemple, que ça te demande de faire potentiellement des rénovations, d'améliorer l'état du bien, de le louer plus cher que le marché, c'est ce qu'on fait nous, c'est réaliste. Parce que oui, le rendement est très élevé, 12% c'est beaucoup. Moi de mon côté, bien, je génère plus autour de 15% d'ailleurs, mais il y a un travail derrière. Il y a un travail de recherche et on se rapproche de l'entrepreneuriat. C'est pas de l'investissement, c'est de l'entrepreneuriat. C'est ce que j'explique à chaque fois quand j'enseigne mes méthodes, c'est que nous, on n'est pas des investisseurs. Un investisseur, il va aller placer de l'argent et il va rien faire. Et donc, forcément, quand tu fais ça, quand tu n'as pas d'expertise, c'est évidemment normal de toucher beaucoup moins en termes de rendement. Si par contre, on te dit, monsieur, madame, je vais vous proposer un investissement qui rapporte 12% par an de manière sécurisée et sans que vous n'ayez rien à faire, pose-toi des questions. C'est tout simplement, et je te le dis avec l'expérience et avec 8 ans d'expérience derrière moi, c'est pas forcément beaucoup, mais quand même conséquent et encore une fois, des millions d'euros investis, je te le dis, 12% par an, sans risque et sans rien faire, c'est impossible. Ou alors, soit c'est possible pendant une durée très courte, quelques mois au maximum, soit c'est possible pendant une durée un peu plus longue, mais ça finira par s'écrouler parce que c'est une arnaque, tout simplement. La plupart des investissements sûrs qui dépassent 10% de rendement et même 10%, c'est simplement impossible. Voilà. Pourquoi c'est impossible et pourquoi c'est quelque chose qui est forcément très risqué? Parce qu'en fait, mathématiquement, quand une personne vous propose cet investissement, il va devoir générer une marge, c'est-à-dire toucher des commissions, toucher de l'argent sur ce qu'il va générer. Or, déjà générer 10% par an de rendement en investissant, par exemple, sur les marchés financiers quand on est trader, c'est extrêmement compliqué. Alors, générer ce rendement et en plus, même plus que ça, et en plus gagner une marge par rapport à ce qu'il vous reverse, c'est tout simplement impossible. Et là, en fait, plein d'arnaqueurs vont vous trouver des raisons de vous expliquer, mais non, nous c'est différent parce qu'on passe par X intermédiaires. Ils vont toujours trouver une belle histoire à vous raconter autour de ça pour vous justifier que mettez de l'argent chez eux et attendez, et vous gagnerez 10, 12, 15%, 20%, j'ai déjà entendu même beaucoup plus par an. Ils auront tous des justifications et je peux vous le dire, moi j'ai des amis qui investissent des centaines de milliers d'euros dans ce type de promesses, d'ailleurs je vais vous donner des exemples juste après. Ils ont tous, et quand je dis tous, c'est 100%, perdu leur argent parce que la personne est partie avec, tout simplement. Parce que c'est une arnaque qu'on appelle un système de Ponzi. Un système de Ponzi, c'est quoi? C'est que on paye les anciens arrivants par l'argent des nouveaux. Comment ça? Bah, c'est simple. Vous investissez 100 000 euros, votre voisin investit 100 000 euros et au total, la personne collecte 1 million d'euros. Très bien. Elle va faire rentrer d'autres personnes dans le système qui vont eux aussi poser 100 000, etc., etc. Et la personne va vous payer vos 10% grâce à l'argent des nouveaux entrants. Donc, c'est absolument pas investi, c'est un faux investissement, mais les nouveaux vont vous payer votre rendement. Là, vous pouvez vous dire, bah ok, bah au final, j'ai mon argent, moi je m'en fous. Oui et non, parce que quand vous voudrez retirer votre argent, vous ne pourrez pas. Ça, c'est un point quand même qui est hyper essentiel. Et surtout, à un moment donné, il n'y a pas assez de nouvelles personnes qui rentrent dans le système pour pouvoir vous payer. Et ça, c'est le fameux système de Madoff qui a popularisé ça aux États-Unis avec son fameux système de Ponzi et qui a arnaqué des centaines de millions ou des milliards de dollars, je crois, à l'époque. Donc faites attention à ça. Ça existe encore aujourd'hui et j'ai eu l'expérience pas plus tard que la semaine dernière en allant voir ma coiffeuse. Alors rien à voir. J'étais simplement chez la coiffeuse et en discutant, elle m'explique que sa famille a investi plus de 100 000 euros au total, hein, toute la famille réunie, plus de 100 000 euros dans un système comme ça, mais ils avaient confiance en la personne, etc. La personne, de ce qu'elle m'a dit, qui les a conseillés, n'était pas au courant. Et donc, ces personnes-là ont perdu plus de 100 000 euros. Et quand je dis 100 000 euros, c'était beaucoup d'argent pour eux. C'est-à-dire que ça devait être certainement toutes leurs économies d'une vie. Et on parle de plusieurs personnes qui étaient comme assez âgées. Donc, ça m'a fait mal au cœur. Et c'est aussi ce qui m'a donné envie de vous faire ce podcast pour ne pas que vous tombiez là-dedans. Alors, je sais, c'est tentant quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on débute, etc., de se dire « Ouais, mais là, moi, j'ai 5 000 euros à investir. J'ai envie d'investir 5 000 euros et que ça me génère un gros rendement. » Ouais, mais qui dit gros rendement dit gros risque. Et quand on te promet des 10, 12, 20% par an, ça ne fonctionne tout simplement pas. Voilà. Et ça, c'est un point qui est juste essentiel. On l'a vu avec plein de systèmes de crypto-monnaie, comme c'était le Terra Luna qui proposait 20% par an de rendement. Ça s'est effondré, tout le monde a perdu son argent, tous ceux qui avaient de l'argent dessus ont tout perdu. Moi, j'ai un ami qui a retiré in extremis juste avant la chute et il avait investi plusieurs centaines de milliers d'euros, donc heureusement qu'il l'a fait. Bref, tous ces systèmes-là sont extrêmement complexes. Donc, il faut vraiment prendre des pincettes. Quels sont les systèmes les plus fréquents qui sont trop pour être vrais? Alors moi, j'en ai noté deux principaux, c'est les robots trading. Alors les robots trading, j'ai eu plein d'amis également qui ont investi de l'argent dedans. Systématiquement, ils ont perdu leur argent parce que c'est une arnaque aussi. Un robot trading, ça ne fonctionne pas. Donc un robot trading, c'est quoi? C'est qu'on va vous vendre, on va dire, un robot, donc un algorithme magique qui est trop fort parce que voilà, il a été codé par un énorme trader, blablabla. Il y a toujours une histoire derrière, bien sûr, qui est fausse. Et ce robot, il gagne quasiment tout le temps. Et donc, au final, vous mettez de l'argent et vous allez générer 10% par mois, enfin des sommes qui sont complètement délirantes. Et en fait, en général, c'est vrai. Ça dure pendant un mois, deux mois, trois mois et les gens gagnent de l'argent parce que un robot peut fonctionner. Un robot trading, et j'ai des amis qui sont traders professionnels et qui m'expliquent ces concepts-là. Moi, je ne suis pas expert là-dedans, mais je reprends ce qu'on m'a expliqué. Un robot peut fonctionner pendant un certain temps. C'est totalement possible de générer 10%, 20% pendant quelques semaines, etc. Mais à un moment donné, il finit toujours, de par l'algorithme et de par la structure des marchés financiers, par perdre tout l'argent qui a été investi. Parce que soit il y a une erreur dans le code, soit, et ça c'est le pire, soit le fondateur du robot finit par aspirer l'argent des gens. Une fois qu'il y en a suffisamment, il aspire cet argent-là et donc vous perdez tout. Soit il vous inscrive sur un broker, donc un broker c'est un courtier de trading qui est un broker qui en général n'est pas réglementé en Europe, ce qui fait qu'ils prennent des frais complètement délirants par rapport à ce qu'ils devraient et donc vous finissez par perdre tout votre argent et c'est en général ce qui se passe. Il faut savoir que les personnes qui vous affilient sur des traders, enfin des brokers pardon, pour trader, touche des commissions énormes lors de l'inscription parce qu'en fait les brokers sont simplement une arnaque déguisée, hein, on va pas dire que c'est une arnaque mais on est presque là-dessus sur ces brokers là et vont récupérer des frais qui sont juste délirants, qui vont être 100 fois supérieurs à ce qui devrait être collecté, ce qui fait que c'est juste impossible de gagner de l'argent et donc vous finissez par tout perdre à la fin. Et c'est comme ça que beaucoup de pseudo-traders gagnent leur vie, c'est en mettant en affiliation des brokers, donc des courtiers qui prennent des frais complètement astronomiques par rapport aux normes et forcément, eux sont rétribués à l'inscription. Donc ça, c'est des choses qui sont très peu dites et je tiens à vous en informer parce que très peu de personnes le savent. Il y a un peu une omerta autour de ça, personne n'en parle. Pourtant, c'est extrêmement simple à comprendre et j'ai vu trop de personnes perdre leur argent là-dedans. Donc, je n'irai pas que ce soit votre cas. Si vous écoutez ce podcast, vous êtes assez éveillé. Mais si vous êtes des gens dans votre entourage qui sont là-dessus, bah, faites-leur écouter ce podcast, partagez-leur cet épisode parce que c'est absolument essentiel de comprendre ça. Donc, tout ce qui est robot trading, trop pour être vrai, ça ne fonctionne jamais et ça finit toujours par perdre. Posez-vous une question simple. Si un robot qui permettait de gagner 10% par mois, pourquoi toutes les grandes banques comme Goldman Sachs qui gèrent des centaines de milliards ne vireraient pas tous leurs traders pour mettre tout leur argent dessus? Enfin, je veux dire, ça paraît logique. Si une banque avait mis la main là-dessus, et croyez-moi que les banques investissent beaucoup d'argent dans des robots, si des banques voyaient des gains aussi importants, c'est-à-dire beaucoup plus importants que leurs traders, est-ce qu'ils ne mettraient pas tout leur argent dessus en virant tout leur trader? Évidemment que si. Donc, ça n'a juste aucun sens d'un point de vue pragmatique. Puisque, en plus, hein, on précise que, à l'inverse de plein d'autres domaines, le trading, vous pouvez mettre de l'argent illimité. Vous pouvez mettre 1 milliard de dollars sur le robot, vous pouvez mettre 1000 dollars, c'est la même chose. Ça générera le même rendement à la fin. En immobilier, c'est pas du tout le cas. En immobilier, si vous investissez 1 milliard d'euros sur le marché, il faut déjà trouver suffisamment de biens pour acheter pour 1 milliard. Et ça, c'est très compliqué. Et donc, c'est pour ça que c'est pas aussi mécanique. L'immobilier, c'est intéressant quand on a des petites sommes parce qu'on va toucher des biens que des grands fonds d'investissement ne vont pas les toucher, ce qui n'est encore une fois pas du tout le cas pour du trading. Voilà, donc tout ce qui est robot trading, tout ce qui est copy trading, quand on vous dit ouais, copier mes trades, etc. Alors là, je vais moins affirmer, je connais moins, mais dans, je vais dire que dans la grande majorité des cas, ça ne fonctionne pas non plus et je ne mettrai pas un centime de mon argent là-dessus. Je vous le dis, ça reste mon avis personnel, à vous de faire votre choix, mais pour moi, ça me paraît totalement irréalisable et irréaliste. Donc faites attention à ça. Ensuite, deuxième critère, maintenant qu'on a dit tout ce qui est trop beau pour être vrai. Donc trop beau pour être vrai, c'est des rendements qui sont délirants, qui sont en plus, quand on vous les vend, sans aucun risque. Alors, c'est incompatible. Un rendement élevé sans risque et sans rien faire, c'est pas possible. Nous, en immobilier, on parle de rendement élevé parce que, alors, il n'y a pas forcément beaucoup de risques, mais en tout cas, il y a du travail à fournir parce qu'il faut aller chercher le bien, il faut créer son réseau off market, il faut trouver son marché. Donc, il y a un travail et nous, on ne fait pas partie des personnes qui vous disent que l'immobilier, c'est facile et que ça se fait sans rien faire. Non, l'immobilier, ça demande d'appliquer une méthodologie qu'on a créée nous, qui est unique en France, certes, mais ça demande un travail, ça demande de le mettre en place. On ne va pas le faire à votre place, c'est comme ça. Donc, le deuxième critère, ça va être justement les intermédiaires. Nous, on vous enseigne, on vous forme sur ce domaine-là, sur le domaine de l'immobilier. Vous payez votre formation et ensuite vous êtes autonome, on vous accompagne, on vous suit, etc. C'est évident. Par contre, on ne fait pas à votre place. Pourquoi ? Parce que quand on passe par des intermédiaires, il y a toujours des frais. Il y a toujours des frais et en plus, l'intermédiaire n'est pas dans votre sens. L'intermédiaire n'a pas le même intérêt que vous. Je m'explique ici. La semaine dernière, Marc a eu un appel avec une de nos élèves, Stratégie Empire. On était ensemble ici dans mon appartement. Et cette élève lui expliquait qu'elle est passée par un chasseur pour l'aider à trouver un bien. Donc, c'est une personne qui n'a pas le temps, qui a la formation, mais qui n'a pas eu le temps en fait, d'appliquer tous les préceptes et qui s'est dit, bon, pour gagner du temps, je vais passer par un chasseur. Le problème, c'est quoi ? C'est que le chasseur va toucher une commission. Ça, c'est normal. Donc, il va toucher une commission. Donc, forcément, vous allez perdre de l'argent d'un point de vue rendement. Donc, ça, c'est un problème. Premier problème, donc il y a des frais qui vont venir réduire votre rentabilité. Ça, c'est un point qui est problématique. Deuxième point qui est beaucoup plus problématique, c'est que vos intérêts ne sont pas alignés. C'est-à-dire que d'un côté, vous, votre intérêt, c'est de gagner le plus possible sur votre achat. L'intérêt de l'intermédiaire, c'est pas que vous gagnez le plus possible. L'intérêt de l'intermédiaire, c'est de vendre rapidement un projet pour toucher une commission. Lui, il s'en fout que vous gagnez beaucoup. Il s'en fout que vous fassiez une bonne rentabilité, un bon rendement. C'est pas son problème. Lui, son problème, c'est est-ce qu'il va toucher sa commission ou pas. Et ça, c'est quand même très problématique parce que vous n'êtes pas aligné sur le résultat. Vous n'avez pas les mêmes objectifs. Voilà. Et donc ça, c'est problématique d'un point de vue immobilier. Sur tout le reste, et j'ai également noté quelques exemples que je vais reprendre, quand vous passez par des intermédiaires pour investir, vous passez par votre banque, vous passez par un courtier, vous passez par un conseiller en investissement, sachez que celui-ci touche une commission. Et ça, dans la plupart des banques traditionnelles, dans la plupart du monde financier traditionnel, les commissions sont substantielles. C'est pas pour rien que toutes les grandes banques sont riches, c'est pas seulement dû au trading, c'est certainement pas dû aux prêts immobiliers, croyez-moi, parce que les prêts immobiliers ne rapportent que très peu des recettes des banques, sachez-le. Ce qui rapporte le plus aux banques, c'est l'argent confié par les particuliers, les professionnels qui va être placé. Pourquoi ? Parce que les banques touchent des commissions et touchent des frais systématiquement, que vous gagnez ou que vous perdiez. Et ça, j'insiste bien sur ce point. Que vous gagnez de l'argent ou que vous en perdiez, la banque gagne toujours. Je vous laisse le temps de réaliser. Là où vous êtes complètement averse, enfin vous êtes complètement corrélé au risque, c'est-à-dire que si le marché monte, si votre investissement monte, vous gagnez de l'argent, s'il baisse, vous en perdez, la banque, ce n'est pas son problème. La banque prend en général des frais sur la totalité de ce qui est investi. Exemple, vous investissez 1000 euros, on va dire plutôt même 100 000, c'est plus simple. 100 000. La banque va prendre par exemple chaque année 2% de frais. Donc tous les ans, la banque va prendre 2% fois 100 000, 2000 euros. Ok ? Donc si vous gagnez 10% à l'année, votre compte passe de 100 000 à 110 000. Génial, vous êtes content, vous avez gagné 10%, vous avez gagné 10 000 euros. Non, 10 000 euros moins les 2 000. Donc on passe à 8 000 euros. Bon, ça reste très bien, vous allez me dire c'est génial, j'ai gagné 8 000 euros, bon c'est cool, j'ai rien fait, super. L'année suivante, votre compte passe de 108 000 euros à 80 000 euros parce qu'on a une baisse de marché, un problème, etc., une crise, peu importe. Qu'est-ce qui se passe ? La banque prend quand même 2%. de ces 80 000 euros. Donc la banque va gagner quand même 1 600 euros, pendant que vous, vous avez perdu. Donc ça va encore diminuer votre montant investi à cause de ces frais-là. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, la banque, son seul intérêt, c'est pas que vous gagnez de l'argent, même si elle gagnera toujours un peu plus parce que bah, le montant du compte va monter, donc elle va gagner un peu plus. Mais ce n'est pas son intérêt premier. L'intérêt premier de la banque, c'est que vous investissiez le plus d'argent possible. Et c'est de trouver un maximum de personnes pour investir. Ce n'est pas de leur faire gagner de l'argent, en tout cas sur le court terme. Sur le long terme, bien sûr, parce que vous allez recommander, vous allez remettre de l'argent, etc. Mais dans l'absolu, ce n'est pas son intérêt. Donc faites attention aux intermédiaires, faites attention à bien comprendre comment fonctionnent les frais. Je mets un bémol d'ailleurs sur les nouveaux courtiers ou les néobanques. Moi j'utilise pas mal de néobanques ou de néocourtiers. Faites attention d'ailleurs, il y a plein de choses aussi qui sont pas forcément de très bonne qualité, mais voilà, soyez vigilants. Mais en tout cas sur les néobanques, néocourtiers qui sont plutôt en ligne avec moins d'équipes et un système plus moderne, les frais sont quand même bien réduits, parfois réduits à zéro dans certains cas. Et là ça devient beaucoup plus intéressant d'investir avec eux parce que vous limitez votre risque en limitant les frais que vous allez avoir sur des banques traditionnelles. Okay, donc soyez vigilants là-dessus, regardez bien, et là c'est une exception, ça peut être intéressant si vous analysez bien, eh bien tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut analyser, notamment les frais et les coûts d'intermédiaire. Le clé en main en immobilier, on en a déjà parlé plein de fois, c'est également quelque chose que je ne recommande pas, évidemment pour des personnes qui ont des capitaux, on va dire, bas à modérés. Et quand je dis modéré, je ne parle pas de quelques dizaines de milliers d'euros, je parle de plusieurs centaines. Enfin, pour moi, si votre objectif c'est de gagner de l'argent immobilier, c'est d'en vivre à terme, en dessous d'un million d'euros d'argent disponible sur votre compte en banque, je ne vois pas l'intérêt de passer par du clé en main. Pourquoi ? Parce que vous allez lâcher une somme colossale en termes de frais, vraiment colossale, et vous allez gagner très peu au final à la fin. Parce que votre achat va être truffé de frais, c'est normal, hein, et encore une fois, je ne critique pas les personnes qui font du clé en main parce que c'est normal de se rémunérer, moi j'ai aucun problème avec ça, et elles font le travail qui est difficile. Donc elles font le travail difficile, c'est normal qu'elles se rémunèrent. Et encore une fois, au moins c'est réaliste et c'est pas du tout une arnaque, c'est pas ce que je suis en train de dire. À l'inverse de ce que vous proposent certaines personnes en vous disant ouais 12% par an sans risque, ça c'est de l'arnaque. Quand on vous dit je vous prends des frais, vous allez gagner peut-être 5% par an, 4% par an, mais nous on a pris des frais et c'est transparent, c'est pas du tout une arnaque. Si vous êtes ok avec ça, il n'y a aucun problème. Moi, ce que j'estime par contre, c'est qu'en dessous d'un million d'euros de cash et d'un travail qui est extrêmement prenant, je ne vois pas l'intérêt financier de le faire et c'est beaucoup plus rentable pour vous de le faire vous-même. Je vous donne un exemple très simple. Là où vous allez par exemple acheter un bien à 200 000 euros avec une agence clé en main qui va prendre globalement autour de 40 000 euros de frais, hein, entre 30 et 40 000 euros en général, c'est un peu les frais qui sont pris parce qu'ils vont gérer vos travaux, donc il y aura des frais sur les travaux, ils vont gérer votre achat, ils vont prendre des frais dessus, ils vont gérer votre décoration, ils vont prendre des frais dessus. Donc au total, si on calcule tout, le surcoût c'est autour de 30 à 40 000 euros sur le bien. Et en plus de ça, clairement, vu que c'est des personnes qui cherchent des biens en masse, ça va pas être les meilleures affaires qui vont vous tomber dans les mains, ça va être des affaires moyennes. Donc en fait, vous payez un bien moyen au prix d'un bien premium et forcément ça se ressent sur la rentabilité. Et la renta moyenne d'un projet comme ça, ça va être autour de 4%. Donc si vous investissez 200 000 euros, vous allez toucher par an globalement 8 000 euros avant les frais. On va dire 8 000 euros après les frais pour être gentil. Donc si vous touchez 8 000 euros après les frais, clairement votre bien ne s'autofinance pas, donc vous devez rajouter tous les mois de l'argent de votre poche pour en gagner. Donc ça c'est quand même très problématique et pour rembourser votre prêt, donc vous vous retrouvez dans le négatif. Dans le même temps, donc là vous êtes en négatif, hein, donc tous les mois avec 800 euros de loyer sur un bien à 200 000, mettons que vous avez mis un peu d'apport, vous allez vous retrouver à sortir entre 300 et 500 euros par mois de votre poche. Donc votre investissement va vous coûter entre 300 et 500 euros par mois. Moi de mon côté, quand je gère mes biens moi-même, ça me demande plus de temps bien sûr, quand je gère mes achats, que je fais le travail correct avec une méthodologie précise, celle que j'enseigne en stratégie Empire, je vais générer non pas de négatif mais de positif cette fois-ci, de bénéfice entre 1200 et 1400 euros par mois. Donc d'un côté, je perds entre 300 et 500, de l'autre, je gagne entre 1200 et 1500. Donc pour faire très simple, je génère un excédent de 1500 euros par mois. Là où l'autre côté, on en perd 300. Donc 1500 euros de plus, si on part de 1200 et de 300 euros de déficit. Donc juste en faisant soi-même, la différence, c'est pas quelques centaines d'euros par mois, c'est plus de 1000 euros par mois pour le même budget. Et j'insiste, le même budget de 200 000 euros. Quand on achète un immeuble de rapport correctement, VS quand on achète un bien clé en main. D'autre part, si vous revendez ce bien clé en main, vous allez perdre de l'argent. C'est évident, vous avez payé 200 000 euros un bien qui en vaut 160, 170. Si vous le revendez demain, vous allez perdre 30 000 euros en plus. De mon côté, si je revends mon bien que j'ai acheté 200 000, je le revends à minima 300 000 euros. Donc d'un côté, je perds 1 000 euros par mois et de l'autre, je perds également plus de 100 000 euros à la revente. Donc vous voyez que quand même c'est très problématique, on ne se rend pas forcément compte, on se dit ouais mais c'est que 20 000, c'est que 30 000 euros. Non, en réalité c'est beaucoup plus que ça, c'est la notion de coût d'opportunité. Et le coût d'opportunité c'est qu'est-ce que vous auriez pu faire avec votre argent à la place d'acheter ça. Ce que vous auriez pu faire, c'est le type d'immeuble dont je vous parle. Vous pouvez voir plein d'études de cas sur la chaîne YouTube si vous voulez en savoir plus de nos élèves qui génèrent des résultats similaires. Et vous verrez que la différence de gain, elle est juste colossale. Donc soyez vigilants par rapport à ça et comprenez bien que les intermédiaires, et encore une fois c'est normal, c'est des gens qui travaillent, ils méritent une rémunération, tout travail mérite salaire. Mais il faut bien comprendre que c'est à votre détriment, et si vous n'avez pas énormément d'argent de côté à investir pour acheter un bien immobilier, etc., c'est dommage. Pour moi, c'est une perte sèche et ça ne vaut pas le coup. Même si vous gagnez 5000 euros, même si vous gagnez 7000 euros par mois, ça reste plus rentable pour vous de passer du temps là-dessus parce que, in fine, ça vous rapportera beaucoup plus. Ça, c'est le deuxième point. Donc, attention aux frais, attention aux clés en main, excepté les néo-courtiers, les néo-banques. Faites attention également aux néo-intermédiaires parce que on l'a vu dans l'immobilier avec la chute d'un très grand acteur du clé en main qui s'appelle Mastéos, Mastéos, qui a fait faillite récemment. C'est une entreprise qui proposait du coup du clé en main. Moi, je me suis beaucoup renseigné sur cette entreprise parce que ça m'intéressait de voir comment était leur fonctionnement. J'ai pris contact avec eux, etc. Le service était très bon, rien à dire. Simplement, le problème de Mastéos, c'est que leurs frais, à mon sens, étaient trop bas. Justement, eux essayaient de révolutionner un peu le marché en facturant des frais plus bas que la concurrence, ça n'a pas tenu, tout simplement, parce qu'ils ne gagnaient pas assez d'argent, ils étaient en déficit, et donc forcément, quand ça vous coûte trop cher et que vous ne gagnez pas assez en termes de frais, au final, vous faites faillite, et c'est normal. Donc, faites attention également aux acteurs qui proposent des frais réduits, c'est pas forcément un bon plan, parce que si vous avez investi via une entreprise comme ça qui fait faillite, vous vous retrouvez dans l'embarras pour gérer votre bien et même pour en racheter d'autres par la suite. Troisième point, qui est très important aussi et qui est un red flag, un drapeau rouge, faites attention à ça, si on vous propose un investissement avec trop d'avantages fiscaux. Alors là, on va être mesuré, les avantages fiscaux, c'est très bien, on a plein d'immobilier, il n'y a pas de problème avec ça, mais acheter seulement pour un avantage fiscal, c'est toujours une erreur. Parce qu'un avantage fiscal, un incitatif fiscal, donc c'est l'État qui le met en place, c'est l'État qui se dit « Ok, on va faire en sorte d'inciter les gens à investir dans tel ou tel domaine parce que nous, ça nous intéresse, parce que ça nous permet d'éviter de dépenser dans ce secteur-là. C'est des particuliers, c'est des privés qui vont mettre de l'argent et non pas l'État. Et en échange de ça, on leur fait une petite réduction d'impôt. » Alors dans certains cas, c'est bien. Dans la location meublée, par exemple, c'est un bel avantage. Que vous soyez non professionnel ou que vous soyez professionnel, c'est très bien. Moi, je trouve ça très intéressant. Dans d'autres cas, l'avantage fiscal est tel qu'il est louche quasiment. Et je vais vous donner l'exemple le plus connu qui était l'investissement dans les logements Pinel qui n'existe plus ou qui est en train de disparaître. Les logements Pinel, c'était des logements neufs qui étaient vendus par des promoteurs à des prix prohibitifs, très clairement, donc avec des prix des surprimes de 40-50%. Vous alliez acheter un appartement 300 000 euros alors qu'il en valait sur le marché peut-être 220, c'était la réalité et c'était très transparent. D'ailleurs, les vendeurs neufs disaient tout simplement oui, c'est plus cher parce que c'est neuf, ok. Sauf qu'un bien neuf, ça le reste pendant un mois. Au bout d'un moment, ce n'est plus neuf, c'est ancien. Et au bout de 10 ans, qui est la fin de l'avantage fiscal, vous revendez votre bien au prix de l'ancien, in fine, vous ne vendez pas au prix du neuf. Et donc, il y a eu de très belles opérations qui ont été faites. Il y en a dans des bonnes régions, dans la région de Bordeaux à l'époque, quand ça valait peu cher. Dans la région parisienne également, il y a eu des belles opérations. Il y a des gens qui ont fait des belles affaires. Mais dans 90% des cas, ça a été des affaires plutôt mauvaises puisque tous les biens ont perdu de la valeur. Et j'ai racheté, moi, de mon côté, pas mal de biens qui avaient été vendus par des personnes qui les avaient achetés en Pinel. Récemment, j'ai acheté un appartement avec Marc qu'on a payé de mémoire un peu plus de 150 000 euros. C'est un appartement, un très bel appartement en Île-de-France, très proche de Paris. Vraiment une pépite, ce bien. L'acheteur l'a acheté, je crois de mémoire, 180 000 euros il y a 10 ans. Okay, donc il l'a acheté plus cher il y a 10 ans en sachant que le marché a pris au moins 50% entre temps. Donc je ne sais pas si tu te rends compte, s'il avait mis ses 180 000 euros dans un bien ancien, la valeur du bien aurait été aujourd'hui peut-être de 350-360 000 euros et là il a revendu 150. Et en fait, oui, il a gagné de l'argent grâce à l'économie d'impôt parce que le Pinel incluait une réduction d'impôt. Peut-être qu'il a gagné quelques dizaines de milliers d'euros sur ses impôts. Génial, super. Mais au final, il a perdu beaucoup plus en n'ayant pas de plus-value à la fin. Et c'est là où je veux en venir. C'est pas forcément une mauvaise affaire, c'est pas une arnaque de profiter d'avantages fiscaux, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, la grande problématique des avantages fiscaux, c'est que ça vient avec un prix. Et le prix, c'est que vous payez trop cher votre bien. Et en l'occurrence, c'était ça le problème. Et c'est le cas de la plupart des biens neufs. Vous allez payer trop cher. Donc, quand vous revendrez, vous allez perdre de l'argent ou, dans le meilleur des cas, ne pas en perdre. Mais au final, si vous aviez investi la même somme dans un autre bien, oui, vous aurez payé un peu plus d'impôts pendant la durée, ça c'est vrai, pas de problème. Par contre, à la fin, vous aurez gagné également beaucoup plus. Et moi, j'ai coutume de dire, les impôts, c'est pas un problème. Moi, je paye énormément d'impôts. Je ne dirais pas les sommes parce que c'est indécent, les sommes que j'ai payées en impôts, sincèrement, en France, puisque toutes mes boîtes sont en France. Et j'ai toujours payé tous mes impôts en France, particulier, et en tant qu'entreprise. J'ai payé des sommes délirantes en impôts. Mais comme je dis toujours, je préfère gagner 100 000 euros payer par exemple 30 000 euros d'impôts plutôt que gagner 20 000 euros et payer aucun impôt. Vous voyez la différence, je gagne beaucoup plus à la fin. Ok, j'ai payé l'impôt, mais ce qui me reste dans la poche à la fin est plus important. Et c'est exactement la même logique en immobilier. Vous allez peut-être payer de l'impôt pendant toute la durée de détention, peut-être ne pas défiscaliser. Par contre, à la fin, vous allez gagner 3 fois, 4 fois, 5 fois plus. Donc même avec la différence d'impôt, vous allez gagner à la fin, une fois tous les impôts déduits, bah peut-être 2 fois ou 3 fois plus. Vous voyez ? Donc ça, c'est quand même un point qui est essentiel. Les impôts, c'est important, mais il ne faut pas tomber dans l'obsession fiscale à se dire comment je fais pour pas payer d'impôts. Je connais des personnes autour de moi qui passent leur temps à se focaliser sur comment payer moins, alors qu'en réalité, leur focus devrait être sur comment gagner plus. Et quand on a les bonnes stratégies, gagner plus, c'est beaucoup plus simple. Et j'en viens du coup à mon dernier point sur la notion de contrôle. Ce qui fait que vous gagnez de l'argent en investissement, c'est que vous passez la frontière de l'entrepreneuriat. Quand on investit seulement en tant qu'investisseur passif, c'est très bien. Néanmoins, ça vient avec un problème. Vous confiez la gestion de vos investissements, de votre argent à d'autres personnes qui vont prendre des frais, qui vont potentiellement ne pas être honnêtes si on reprend les premières personnes qu'on a eues au tout début, qui vous proposent des investissements miracles où c'est beaucoup trop beau pour être vrai. Donc faites attention à ça. Donc soyez méfiants. Passez la frontière du contrôle et devenez entrepreneur. Prenez votre argent, investissez-le, mais contrôlez votre investissement et devenez un vrai entrepreneur. Et c'est ce qu'on propose de faire dans l'immobilier. On ne vous propose pas de mettre de l'argent dans un bien au hasard, ça c'est de l'investissement pur. On vous propose de créer vos propres projets, de créer votre propre activité et d'avoir vraiment le contrôle sur ce que vous faites. Et c'est comme ça qu'on génère des revenus comme je peux le générer. C'est pas le français moyen qui va acheter un appartement au hasard dans sa ville pour gagner 50 euros tous les mois qui va pouvoir réaliser comme moi des immeubles qui génèrent 1000, 1500, voire plus de bénéfices chaque mois. C'est en ayant une véritable méthodologie professionnelle, en sélectionnant un bon marché, en étant à même de créer son réseau off-market, en étant à même de savoir analyser les projets. C'est un vrai travail professionnel et c'est à la fin qu'on crée une vraie activité qui génère de vrais revenus. Et c'est comme ça qu'on en vit. Et je fais le parallèle sur la partie achat-revente. Quand vous êtes marchand de biens professionnel, vous pouvez générer très facilement 20 000, 30 000 euros sur une opération immobilière de bénéfices. Pourquoi ? Non pas parce que c'est magique, mais parce que vous maîtrisez. Vous êtes en maîtrise de votre marché, vous savez quel bien acheter, vous savez combien le revendre, tout ça c'est des méthodologies qu'on enseigne et du coup vous êtes forcément plus performant que si vous confiez tout ça à un intermédiaire. Et croyez-moi, faire de l'achat-revente en passant par un intermédiaire, c'est totalement impossible. Ça ne fonctionne tout simplement pas parce qu'un intermédiaire n'a aucun intérêt à vous faire gagner de l'argent. Il a intérêt à en gagner le plus possible pour lui. Et c'est totalement normal. Donc voilà pour les investissements à éviter. Voilà mon avis là-dessus. Voilà moi ce que je fais de mon côté en termes d'investissement. Aujourd'hui, si vous me demandez dans quoi j'investis, eh ben j'investis principalement dans l'immobilier, comme toujours, et avec des biens que je contrôle. J'ai mes propres sociétés d'investissement. Je sais ce que je fais, je connais mes zones, je maîtrise, je gère tout de A à Z. Même si j'ai une agence de gestion derrière qui prend le relais, c'est une agence de gestion qui prend des frais, mais une fois que le bien est loué, donc au final, pour moi, c'est totalement transparent. J'investis mon argent sur les marchés financiers, j'investis mon argent dans des placements alternatifs et j'investis mon argent dans des entreprises, dans des sociétés que je contrôle. Pas toujours, mais dans la majorité des cas, l'argent que j'investis dans des entreprises, dans des sociétés, c'est des sociétés que je contrôle ou dans lesquelles je suis conseiller, je suis au board de l'entreprise, donc je suis en fait membre d'une sorte de comité de direction qui prend les grandes décisions liées à l'entreprise. Et ça, ça change absolument tout in fine. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce podcast qui, je pense, est extrêmement important. Maintenant que vous avez un peu tous les éléments en tête, si vous souhaitez passer de l'autre côté, passer la frontière de l'investissement vers l'entrepreneur immobilier, que vous voulez les méthodologies pour vous aussi en vivre et vraiment générer du vrai argent et pas quelques centaines d'euros tous les mois et au bout de 10 ans, eh bien, vous avez une vidéo en dessous de ce podcast. C'est le premier lien en description. Vous pouvez également la trouver en tapant stratégie immobilier sur Google. C'est une vidéo qui vous montre de A à Z comment réaliser une opération immobilière qui génère jusqu'à un salaire complet, que ce soit un salaire mensuel ou carrément un salaire annuel dans le cadre de l'achat-revente. Vous avez tout dedans, vous verrez comment créer votre activité, comment nous on l'a fait avec mon associé Marc et comment des milliers d'élèves ont fait la même chose avant vous. Voilà, le lien est en dessous et on se retrouve directement dedans.